France Inter.
Franceinter.com.
La princesse s'éveilla et, le regardant avec des yeux tendres, elle lui dit : Est-ce vous, mon prince ? Vous vous êtes bien fait attendre. Charles Perrault, La Belle au Bois dormant. Mille ans d'histoire. Depuis 300 ans, des générations de midinettes ont rêvé de cette histoire, celle d'une princesse réveillée par le fils d'un roi, avec lequel elle fut heureuse et eut beaucoup d'enfants. Mais au siècle de Charles Perrault, le sort des princesses qui sont devenues reines n'avait rien à voir avec celui de la Belle au Bois dormant. Échangées comme des marchandises, mariées parfois très jeunes à des princes ou des rois qu'elles n'avaient pas choisis, considérées comme des ventres chargés d'assurer la descendance de leur mari, elles n'étaient que des pions au service de la raison d'État. C'est ainsi que, pour ramener la paix dans son royaume, la très catholique Catherine de Médicis avait forcé sa fille, Marguerite de Valois, la reine Margot, à épouser un protestant, Henri de Bourbon, le futur Henri IV.
C'est un mauvais jour pour toi, je sais. Mais regarde, ils sont là, mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage. Ça va tout arranger.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ?
J'accepte.
Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Bartholomée Bellassar, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était un extrait du film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, contrainte, on vient de l'entendre, par sa mère, de se marier avec le futur Henri IV. Alors, c'est un de ces mariages princiers dont vous parlez dans votre livre, Le Lit, le Pouvoir et la Mort, et qui est un livre dans lequel vous rappelez que ces mariages n'avaient rien à voir avec celui de la Belle au Bois dormant, c'était plutôt celui de la Reine Margot. C'était très rarement, ces mariages princiers, des mariages d'amour.
On peut dire jamais. Il y avait quelquefois des idylles entre princes, mais ces idylles ne se terminaient jamais par un mariage. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quelquefois, ces mariages tout à fait arrangés se terminaient par l'amour. Mais ça n'était pas prévu au départ, si je puis dire.
Ça correspondait à des stratégies matrimoniales, même des stratégies politiques. C'était souvent les mariés ne se voyaient pas, on y reviendra. Mais cela dit, on peut dire ça à peu près de tous les mariages d'autrefois, dans les campagnes, dans les villes, les paysans, les bourgeois, mariaient leurs enfants sans leur demander leur avis.
Oui, on peut dire dans 95% des cas, en effet. Il y avait malgré tout quelques mariages d'amour, notamment entre paysans. C'était évidemment l'exception.
Et puis c'était le moyen d'agrandir le patrimoine,
absolument,
éventuellement
oui.
De se débarrasser d'un enfant, ou au contraire d'allonger, d'augmenter, mais ça c'est vrai aussi pour les princes, d'avoir de plus d'enfants. Alors, cela dit, ça n'intéressait évidemment que quelques familles. Dans le cas de ces mariages princiers dont nous allons parler, évidemment, il s'agissait des intérêts d'un État, c'était beaucoup plus important.
Ah, il s'agissait des intérêts, c'était des affaires d'État, absolument. Et c'était bien conçu comme tel, à la fois par les princes eux-mêmes, mais aussi par les cours et par les diplomates qui travaillaient précisément à préparer ces contrats de mariage.
Alors vous parlez de deux types de reines, en fait, votre livre s'appelle Le Lit, le Pouvoir et la Mort, Reines et Princesses d'Europe de la Renaissance aux Lumières. Alors il faut rappeler, vous le faites dans votre livre, qu'il y avait deux types de reines, celles qui l'étaient parce qu'elles étaient filles de rois, ça dans les pays qui ne connaissaient pas la loi salique, c'est-à-dire où une reine pouvait accéder au pouvoir réel. C'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas par exemple de la Suède ou du Danemark. Et puis alors il y avait celles qui devenaient reines par leur mariage, mais qui, comme en France, en réalité, ne gouvernaient pas. Elles étaient un peu des potiches à la cour.
Absolument. On peut dire que c'est le cas très général, parce que ça concerne non seulement la France, mais par exemple, ça concerne également l'Autriche, enfin l'Empire, si on préfère. Ça concerne également, finalement, l'Espagne, une fois passé le règne d'Isabelle la catholique, ça concerne aussi le Portugal, par exemple. Donc, ça concerne, en fait, presque tous les grands royaumes de cette époque. Et un nombre important de grands-duchés, également très important.
Il s'agissait souvent, en fait, d'intérêts politiques. On mariait un roi ou un dauphin, un futur roi, avec une princesse pour, au fond, faciliter la politique de l'État.
Absolument. Il y a toujours une raison politique qui domine, comme... Pour donner un exemple, les fameux mariages croisés de 1615 entre France et Espagne qui unissent Anne d'Autriche à Louis XIII, à Louis XIII, et Élisabeth de Bourbon au futur Philippe IV.
Qu'est-ce que vous appelez justement un mariage croisé ?
Eh bien c'est ça, le frère et la sœur épousent la sœur et le frère. Ou quelquefois l'oncle et la nièce épousent le frère et la sœur. Enfin, la sœur et le frère.
Et tout ça pour faciliter
les
relations diplomatiques, pour
établir des paix. C'est Marie de Médicis qui a conçu ces mariages croisés, avec d'ailleurs l'accord de l'Espagne, de façon à mettre fin à un conflit qui avait très longtemps duré, et qui aurait peut-être duré encore si Henri IV n'avait pas été assassiné.
Alors là, au fond, les princesses dans cette affaire ne sont que des pions au service d'une politique comme celle de Mazarin, qui voulait rapprocher la France de l'Espagne en mariant le jeune Louis XIV avec la fille du roi d'Espagne, l'infante Marie-Thérèse.
Pour abattre l'Espagne, vos armées peuvent franchir les Pyrénées, mais
c'est stupide.
La bonne façon de verrouiller vos frontières des Pyrénées et des Flandres, c'est pour vous d'épouser l'infante.
J'espère que sans attendre mon accord, vous avez proposé ce mariage à Madrid.
Ah, les premiers rapports ne sont guère favorables.
Persévérons. Les rapports le deviendront.
Voici un portrait récent de cet enfant.
Voyez, Majesté. Voyez.
Bien. Le roi de France s'épousera à l'infante d'Espagne.
Voyez son portrait.
Si ce n'est pas un crapaud à trois têtes, elle est parfaite.
Nous épouserons l'infante.
Et Louis XIV, qui avait le sens du devoir à épouser, comme le lui demandait Mazarin, Marie-Thérèse d'Espagne, ça s'est fait au terme de très très longues négociations, hein, Bartholomé Bennassar. Alors cela dit, seules les princesses de très haut rang pouvaient envisager de se marier avec un roi.
Oui, les princesses de très haut rang et souvent les aînées. Et on donnait toujours la préférence à l'aînée sur la cadette, sauf si l'aînée était totalement disgracié. Oui. Mais il y a la règle de la primogéniture qui est presque fondamentale. C'est le cas d'ailleurs du mariage dont vous venez de parler. Alors que la diplomatie française avait assez habilement, pour amener le roi d'Espagne à ce mariage, laissé entendre que Louis XIV pourrait épouser la duchesse de Savoie, une duchesse de Savoie, qui était d'ailleurs en même temps la cousine germaine de Louis XIV.
Alors cela dit, les rois n'épousent que des princesses de haut rang, si possible des filles de rois, mais alors comme il n'y a pas beaucoup de rois, de filles de rois, de princesses royales, il y a forcément, à un moment donné, comme il y a beaucoup de mariages de ce type, il y a forcément de la consanguinité. Vous dites même qu'on est parfois à la limite de l'inceste, Bartholomé Bennassar.
Absolument. Cette consanguinité a des résultats d'ailleurs finalement désastreux. Le cas typique, d'ailleurs celui que vous venez de citer, le cas de Louis XIV et de Marie-Thérèse, qui sont cousins germains de tous les côtés, si je puis dire, n'est-ce pas ? Et par conséquent, vous le savez, sur les 6 enfants que Marie-Thérèse et Louis XIV ont eu, un seul est parvenu à l'âge adulte, le grand dauphin.
Mais pourtant l'Église, et vous le rappelez aussi, l'Église l'interdit.
Elle interdit pour l'ensemble des gens qui constituent la société civile. Et là, elle se montre quelquefois même sévère. En revanche, elle accorde à tous les coups les dispenses lorsqu'il s'agit des familles royales ou princières.
Alors ce que l'Église n'interdit pas, ce sont les mariages jeunes. Alors ce qui m'a frappé en vous lisant, Bartholomé Bennassar, c'est l'âge auquel on marie les infantes d'Espagne par exemple. Parfois, on marie ces princesses à partir de 13 ans.
Ah ben absolument, et même 12 ans, n'est-ce pas? Nous avons des cas, oui, de Louise de Savoie, par exemple. La mère de François Ier a été mariée à 12 ans. Et il y en a d'autres. C'est-à-dire que nous avons là un cas qui est un cas particulier, parce que dans la société civile, le mariage des adolescentes, sans être interdit,
il est rarement pratiqué.
Très rare, n'est-ce pas? Extrêmement rare, tandis que nous avons plus du quart de nos princesses qui se marient entre 12 et 15 ans. Quelquefois même, elles ne sont pas nubiles. Élisabeth de Valois, lorsqu'elle va épouser le Philippe II, n'est pas nubile. Et par conséquent, elle va être épiée par les dames de compagnie jusqu'à l'apparition des premières règles. Et dès cette apparition, la consommation charnelle du mariage va se faire.
C'est vraiment des marchandises.
Hein. Absolument.
C'est absolument terrible, parce qu'évidemment, leur consentement n'existe pas. Alors souvent, d'ailleurs, pas plus du côté du marié que de la mariée, parce que le marié ne connaît pas la mariée. Alors il y a d'ailleurs quelque chose qui est intéressant, c'est que comme ils ne se connaissent pas, comme ils ne se voient pas, et comme la photographie n'a pas encore été inventée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on montre au roi, ou au futur roi, la princesse qu'il va épouser sur des peintures. Et ça a donné de très grands peintres à l'époque dont vous parlez.
Ah ben oui, nous avons d'ailleurs beaucoup de chance, grâce à cela, nous avons un magnifique patrimoine de portraits de princesses. Vous savez, vous connaissez par exemple le cas d'Henri VIII, à l'occasion de ses nombreux mariages, il envoie toujours Ansel Bain le jeune pour faire le portrait des princesses possibles. Ce qui lui vaudra d'ailleurs quelques désagréments.
Parce que Holbein triche. Hein.
Holbein était un trop grand peintre. Il améliorait sérieusement les images de ces princesses. Mais ça nous donne de magnifiques portraits. On a des musées entiers qui sont presque remplis de portraits de princesses.
Et Clouet, Velasquez, je crois pratiquement tous les peintres.
L'atelier de François Clouet, l'atelier de Francesco Elio, l'atelier de Holbein. Donc on a toute une série... Le Titien lui-même a fait de très nombreux portraits. Van Orley, dans les Flandres, qui a fait des séries entières, par exemple des filles de Philippe Le Beau et de Jeanne la Folle, n'est-ce pas?
Au fond, on choisissait sa princesse sur catalogue, en quelque sorte, sauf que c'était des grands peintres.
Je crois qu'on peut absolument retenir cette expression, le choix sur catalogue.
Alors, il y a une autre chose tout à fait extraordinaire, qui nous paraît extraordinaire aujourd'hui, c'est que donc les mariés, non seulement ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais vus, sinon en peinture, mais en plus, comme ils étaient, dans le cas des princesses étrangères, très éloignés les uns des autres, donc il y avait un mariage, deux mariages en fait, le premier en l'absence du mari.
Oui, c'est le mariage par procuration, qui est d'ailleurs un défi au sacrement. Parce que normalement, le mariage doit se faire en présence des conjoints. Or, dans l'immense majorité des cas, ce mariage se fait certes en présence de l'épousé, mais en l'absence de son époux, qui est représenté, ou qui est représenté par un prince, lequel, au cours d'une cérémonie de type rituel, met une jambe dans le lit de l'épousé.
Ah bon ?
Oui, absolument.
Mais à quoi ça correspond, ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir la princesse dans le royaume de son mari? Pourquoi est-ce qu'on va la chercher?
Eh bien,
c'est ce simulacre de mariage.
Oui, c'est un simulacre de mariage. Et ça se fait aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Belgique. Puisque, par exemple, Christian II de Danemark va se faire représenter par un de ses féaux lorsqu'il vient épouser Isabeau de Habsbourg.
Il y a un mariage très célèbre qui s'est fait comme ça par procuration, c'était à Florence, le mariage de Marie de Médicis en l'absence de Henri IV.
En l'absence d'Henri IV, absolument, puisque finalement Henri IV ne rencontrera Marie de Médicis qu'à Lyon, même pas au débarquement en France à Marseille, mais à Lyon seulement.
Voici enfin Madame Marie de Médicis en compagnie de Monsieur Pomponne de Bellièvre.
Vous voilà devant le roi de France.
Tout anxieux, ne vous voyons point arriver.
C'est ennui pour vous d'avoir été contrainte à un si rude voyage. Vous devez être affamée. Pour ce qui est du repas, vous n'aurez pas à vous plaindre. Pour ce qui est du lit, je vous prêterai le mien.
Oh, sire !
N'êtes-vous pas ma femme ?
Il faudrait au moins attendre, sire, que le légat du souverain pontife procède à la bénédiction nuptiale.
Sa sainteté déclare suffisantes les cérémonies qui ont eu lieu à Florence sans moi. Eh bien, madame, vous perdez l'Italie, ben, vous gagnez un royaume qui vous sourit. Quittez un peu votre sœur de lait pour embrasser votre roi.
Quel paresseux
Nymphe qui tient tant d'heure que de joindre à la France ta grandeur, quel paresseux démon te retient à Florence si longtemps loin de ton astre nouveau. C'est un poème chanté de Nicolas Rapin, qu'il avait écrit pour le mariage justement de Henri IV, qui avait répudié, hein, il faut le rappeler, sa première femme. On l'a entendu épouser la reine Margot. Il n'était pas encore roi à ce moment-là, mais il l'a répudié parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et en revanche, quand Marie de Médicis arrive de vient de Florence, on voit qu'il est d'ailleurs très pressé de consommer le mariage.
Effectivement, et il faut reconnaître que cette consommation a donné un résultat quasi immédiat, puisque Louis XIII, le dauphin, est né neuf mois et quelques jours après le mariage.
Mais c'est justement pour ça. Alors, ce qui est un peu de pathétique dans le destin des princesses, c'est qu'elles sont vraiment considérées comme des ventres. Leur mission première, c'est de donner un enfant légitime, parce qu'Henri IV en a eu d'autres, avec des femmes qui n'étaient pas princesses et qui ne sont pas devenues reines. Catherine de Médicis, Marie de Médicis l'est devenue, mais elle était là pour ça. Et alors ça donne des choses assez tragiques, vous l'avez rappelé, Bartholé Badassa, dans certains cas, c'était pas le cas de Marie de Médicis au moment de son mariage, mais dans certains cas, je pense à Claude de France, alors là, non seulement elle devait faire des enfants, mais elle en a fait. Elle a eu son premier enfant à 15 ans. Elle est morte à 24 ans après avoir donné 7 enfants, et on ne s'étonne pas qu'elle soit morte. C'était vraiment des ventres.
Ah oui, absolument. Claude de France, d'ailleurs, a eu un destin, quoique elle soit restée en apparence toujours souriante, un destin tragique, parce que chaque grossesse la mettait au bord de la mort qui va finalement intervenir pour la 7e fois. Elle était, à la fin, elle était obèse, elle se traînait, elle était véritablement à l'article de la mort à chacune de ses dernières grossesses. Et elle n'est pas seule dans son cas, puisque nous avons toute une série de jeunes femmes qui sont mortes avant d'avoir 30 ans, à 25, à 24, à 28 ans, après avoir eu 3, 4, 5, 7 enfants, 8 enfants. C'est véritablement un destin tout à fait tragique.
Des pions, hein, des marchandises. C'était la femme, je ne sais pas si on l'a dit, de François Ier.
Claude de France, oui, bien c'est sûr. Ça.
Et puis alors, autre chose assez pathétique dans cette vie de princesse, qui était vraiment à certains égards sinistre, Bartholé Benassa, c'est le déracinement. Ça, on l'oublie toujours, parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais c'est merveilleux, ces princesses qui devenaient reines, qui même un long voyage. Mais c'était un voyage sans retour.
Oui, alors Claude de France était une exception, elle n'a pas été déracinée puisqu'elle était française, mais la plupart des reines dont nous parlons changeaient de pays, changeaient donc de langue, changeaient d'usage, changeaient de toilette, changeaient d'environnement, puisque au bout de quelques mois, on les privait de leur dame de compagnie, que l'on remplaçait par des nationales, si je puis ainsi m'exprimer, parce qu'on craignait que les relations avec leur dame de compagnie d'origine, si je puis dire, ne soient un prétexte à la migration de quelques informations qu'il fallait conserver, autrement dit le secret, si vous voulez.
Et c'est terrible, parce que en plus, pour celles qui sont jeunes, elles quittent leur famille, elles ne la revoient souvent jamais.
Elle ne la revoit jamais. Anne d'Autriche, qui avait été choyée dans son enfance, car son père et sa mère l'aimaient beaucoup, reçoit des lettres, mais c'est fini. Elle ne voit plus jamais, sauf sa mère, une fois.
Certaines sont même obligées, dans le cas d'un mariage entre une princesse protestante et un roi catholique ou inversement, de se convertir. Vous citez le cas
de la Palatine.
Voilà, elle n'est pas devenue reine, mais en épousant le frère de Louis XIV, elle aurait très bien pu le devenir si Louis XIV était mort. En plus, elle épouse un frère de Louis XIV qui préférait nettement les hommes aux femmes et qui s'est désintéressé totalement de la Palatine. Mais en plus, on l'a obligée à se convertir.
On l'a obligée et ça lui a énormément coûté. Elle en a voulu à son père de l'avoir obligé à se convertir du luthéranisme au catholicisme sans l'avoir averti.
Alors autre chose assez triste, c'est que ces femmes qui souvent parlent très mal, parfois pas du tout, la langue du pays où elles arrivent et dont elles deviennent reines, deviennent très, très impopulaires parfois. Ce sont des étrangères. On les a fait venir pour cette raison, pour une alliance avec un pays étranger, et en même temps, surtout l'opinion publique leur reproche d'être des étrangères. On verra ça avec, par exemple, évidemment, avec... alors vous n'en parlez pas du tout, mais avec Marie-Antoinette.
Oui, je n'en ai pas parlé parce que je me suis arrêté en 1740, sinon le répertoire était très considérable. Mais il est certain que Marie-Antoinette a été très impopulaire parce qu'elle ne parlait pas le français, du moins au départ. Henriette de France, quand elle a épousé Charles Ier d'Angleterre, a été au départ impopulaire, mais elle a fait l'effort d'apprendre rapidement l'anglais. Il y est arrivé en 2 ans, alors cela avait beaucoup amélioré sa situation. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait cet effort.
Alors vous dites qu'elle apprend très rapidement l'anglais, Bartholomew. Ça, en fait, c'est une vie très oisive, hein, en dehors des couches multiples épuisantes, en dehors aussi sûrement de la tristesse d'être éloignée de son pays. C'est une vie de reine consacrée aux arts, au mécénat aussi. Toutes adorent les arts, toutes même étaient parfois des artistes et des mécènes, presque toujours.
Oui, presque toujours des mécènes, souvent d'excellentes musiciennes, y compris même instrumentistes dans certains cas. Il y a la passion de la musique, la passion de l'art. La correspondance, certaines ont été des épistolières remarquables. Vous parliez de la Palatine à un instant, il y en a d'autres, Isabelle d'Este, etc., qui ont beaucoup écrit. Et elles ont évidemment joué un rôle de mécène tout à fait essentiel. Je pense à Marie de Hongrie, la sœur de Charles Quint, qui a été une des principales commanditaires du Titien, pour prendre un exemple. Mais finalement, c'est presque leur cas. Le cas de d'autres cas, ce qu'il faut quand même dire, c'est que beaucoup de ces femmes avaient reçu une remarquable éducation. Et c'est particulièrement vrai au XVIe siècle. Elles avaient finalement une assez haute culture, ce qui peut-être rend leur sort encore plus tragique.
Alors tragique aussi parce qu'elles sont contraintes d'accepter l'indifférence de leurs maris qui les ont épousées parce qu'ils étaient forcés et qui ont souvent des maîtresses affichées, alors qu'inversement, elles devaient elles-mêmes mener une vie exemplaire sous peine de subir le sort de la femme de Henri VIII d'Angleterre, Anne Boleyn, condamnée à mort par son mari en 1536.
Adressé au sous-gouverneur de la Tour de Londres, ordre de procéder à l'exécution de Anne, reine d'Angleterre, ma femme. Elle a mis au monde une fille inutile et un garçon mort-né. Oui, quand je l'épousais, elle m'a promis un garçon. Il me faut un fils qui gouverne l'Angleterre après ma mort. Votre grâce, la reine vous a trahi et elle est condamnée pour adultère et trahison, décapitée ou brûlée vive selon mon bon plaisir. Vous voyez, l'arrêt de mort est devant vous. Oh, signons. Signons Henri Rex, et ça sera fait.
Et Anne Boleyn sera décapitée en 1536 sur ordre de son mari. C'était là aussi tragique le destin des reines, même si peu de reines ont été dans son cas. Il faut dire qu'Henri VIII s'était aussitôt remarié et que lui s'est marié plusieurs fois, 7 ou 8
certes,
fois.
Certes. Ouais. Encore que Anne Boleyn a été d'ailleurs exécutée pour un adultère qui n'est pas du tout certain.
Non. Non, mais enfin, il était pressé d'épouser Jeanne Seymour,
qui lui a succédé. Qui lui a d'ailleurs, qui a survécu assez peu à la naissance de l'enfant.
Alors, attendu une chose importante, il attendait d'Anne Boleyn un fils qu'il n'a pas eu, mais il a eu une fille. Or, dans ce pays, et là on passe à une autre catégorie de reines, celle qui règne vraiment, dans ce pays, il n'y a pas de loi salique. Les reines peuvent devenir des reines de plein exercice, si je puis dire, comme en Suède avec Christine de Suède. Et à ce moment-là, c'est un peu différent. Cela dit, leur vie de reine disposant d'un pouvoir réel n'est pas plus avantageux et même souvent plus triste encore que celui des princesses devenues reines par leur mariage.
Oui, alors on a tout de même le cas d'Élisabeth d'Angleterre, Marie Tudor.
Qui était justement la fille d'Anne Boleyn.
Marie Tudor, c'est la fille inutile dont parle l'extrait que nous avons entendu, qui, elle, va être stérile, ce qui fait que son règne ne va pas se continuer, en quelque sorte. Il y a Élisabeth, il y a Christine de Suède, dont vous venez de parler, il y a eu Isabelle la catholique, également. Mais enfin, elles sont très peu nombreuses. Elles sont trop peu nombreuses, de sorte que, au fond, elles ne règnent véritablement que si elles sont veuves.
Oui, mais ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, les rôles sont inversés. Nous avons parlé de jeunes rois qui font venir des reines, des princesses de l'extérieur. Là, on demande aux reines elles-mêmes, c'est à elles de le faire, bien sûr, d'avoir une nombreuse progéniture. Et dans le cas que vous venez de citer, Élisabeth Ière, la grande Élisabeth, la reine vierge, n'a pas eu d'enfant. Christine de Suède non plus.
Non, ce sont des cas extraordinaires, car ni Élisabeth, ni Christine n'ont voulu se marier. Et là, on bute quand même, on rencontre le mystère de la personne, dans ces deux cas précis.
C'est resté une énigme dans ces cas-là. Et puis alors, Christine de Suède, même comme on la pressait de se marier, a refusé, elle a préféré abdiquer.
Elle a préféré abdiquer.
Alors, c'était une très grande reine.
Ce qu'Elisabeth n'aurait jamais fait.
Et puis alors, vous avez dit, vous avez évoqué, Bartholomé Benassar, le cas des Françaises, des reines de France. Alors, nous l'avons dit, vous le rappelez, elles ne règnent pas vraiment, sauf à un seul moment, c'est quand elles sont veuves, elles deviennent régentes. Au fond, le seul bon moment de la vie d'une reine, si je puis dire, c'est quand elle est veuve.
Ah bah absolument. D'ailleurs, non seulement la mort de leur époux leur donne, dans quelques fois, un vrai pouvoir, et vous venez de signaler le cas des Françaises, Catherine de Médicis, Marie de Médicis, Anne d'Autriche, successivement. Mmh. Presque, on a un siècle pendant lequel le gouvernement de la France est presque entièrement assuré par des veuves. Et c'est un cas qui se produit dans quelques autres pays. Mais et puis alors on peut dire que le veuvage est aussi, pour beaucoup de princesses, le moyen de retrouver leur liberté. Et la meilleure preuve en est, c'est que beaucoup refusent de se remarier.
Oui.
C'est le seul moment où elles peuvent vouloir et faire ce qu'elles veulent.
Alors ce pouvoir quand même qu'elles ont comme régente, pour ce qui concerne les veuves d'un roi qui ont un enfant trop jeune pour régner, c'était le cas des trois que vous avez cités, Catherine de Médicis, Marie de Médicis et Anne d'Autriche, qui ont régné parce que leurs enfants étaient trop jeunes, que ce soit Louis XIII, que ce soit par exemple Louis XIV, fils d'Anne d'Autriche. Mais alors leur pouvoir était quand même très contesté, peut-être parce que la France est très machiste, c'est la loi salique, une reine régnante ne peut être reine que si elle est régente, mais alors à chaque fois ça a été un pouvoir contesté, attaqué. C'était l'époque de la Fronde. Ça a toujours été des périodes de troubles, des périodes de veuvage et de régence des reines.
C'est vrai. C'est vrai. Leur pouvoir a été contesté. Pour Catherine de Médicis, c'était l'époque des guerres de religion. Pour Marie de Médicis, c'est peut-être sa maladresse, parce qu'elle est entrée en conflit très vite avec le dauphin, n'est-ce pas? Et puis, pour Anne d'Autriche, c'est un peu différent, parce qu'il y a eu la Fronde, comme vous le venez de le dire, mais par la suite, Anne d'Autriche a su rebondir, parce qu'elle a eu l'intelligence de comprendre qu'elle n'était peut-être pas capable de gouverner toute seule, et c'est l'appel à Mazarin.
Et votre livre s'arrête en 1740, disons 18e siècle. Est-ce que les reines, dans les pays où la monarchie existe encore, c'est le sort des reines et des princesses est le même, à votre avis, Bartholomé Benassar, notamment, je pense à la reine, à la famille d'Angleterre?
Tout de même, c'est en train de changer, n'est-ce pas? On voit maintenant, pendant encore une bonne partie du XXe siècle, les reines devaient être des princesses. Mais nous nous apercevons aujourd'hui qu'un certain nombre de roturières accèdent à leur tour à la royauté. Et par conséquent, évidemment, elles n'ont plus beaucoup de pouvoir d'une façon générale, puisque les rois règnent mais ne gouvernent pas.
Le lit, le pouvoir et la mort, reines et princesses d'Europe de la Renaissance aux Lumières, c'est le titre de votre livre, Bartholomé Benassar, publié aux éditions de Fallois. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Reine Margot de Patrice Chéreau, disponible en DVD chez Pathé, Louis-Enfant-Roi de Roger Planchon et Anne des Mille Jours de Charles Jarrot, tous deux édités par Universal Pictures, et puis le téléfilm Le Vert Galant de Pascal Salimi et Georges Wodzicki. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Dimitri Scapolan. Documentation, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un animal dont on parle beaucoup en ce moment, une histoire de l'ours.